Et à 7h20 en toute franchise poursuit sa liste des livres politiques à lire pour l'été. Aujourd'hui, Hubert Huertas, vous recevez Julien Demette pour Rock et politique, l'impossible cohabitation. Et c'est publié par les Cahiers du Rock. Bonjour Hubert.
Bonjour, donc la suite de notre semaine en toute franchise spéciale été avec des livres que le service politique a choisi, des graves et des plus distrayants. Distrayants encore que, car soudés dehors plaisants, insolites, amusants et sous couvert de se demander s'il y a un rapport entre la rock'n'roll attitude et la politique attitude, le livre d'aujourd'hui explore une question finalement grave. Pour qui votent ceux qui sont contre ? Bonjour Julien Demetz.
Bonjour.
Parce que le rocker, c'est un type qui est d'abord contre, si j'ai bien lu votre livre.
Un rocker, c'est le rock, c'est la révolte adolescente. C'est quelqu'un qui est contre tout, qui s'énerve contre les parents et qui n'a pas forcément de discours politique fondamental. Mais comme disait un rocker, être rock, c'est avoir 17 ans et dire non. Voilà, je trouve que c'est une bonne définition du rock.
Il y en a qui ont plus de 17 ans, des rockers, quand
oui,
même.
Il y en a même
qui vieillissent.
Oui, il y en a qui vieillissent, mais le rock, c'est l'éternelle jeunesse. Alors même ceux qui vieillissent, comme les Rolling Stones aujourd'hui, par exemple, essayent toujours d'avoir l'air jeune. Le rock'n'roll, c'est synonyme de jeunesse. Le but, c'est de rester jeune.
Quand vous dites que c'est quelqu'un qui est contre, ça me fait penser à quelqu'un qui n'était pas un rocker, a priori, à moins que c'était Pierre Dac. Vous connaissez la devise de Pierre Dac ? Pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour.
Finalement,
c'est le rocker, ça.
Ça pourrait assez bien correspondre au rocker, puisque le rocker est contre, c'est un rebelle. Il est rebelle, en quelque sorte, il aime la rébellion pour elle-même, sans avoir forcément d'ennemis idéologiques ou de discours politiques vraiment construits. Un rocker, c'est quelqu'un qui provoque, c'est quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut, qui veut n'en faire qu'à sa tête. Et c'est pour ça, oui, ça pourrait correspondre assez bien. Pierre Dac est peut-être un pionnier du rock, on l'ignorait.
Bon, c'était l'exclusivité de ce matin sur France Culture. À la dernière page de votre livre, en revanche, il n'y a pas d'exclusivité. Même, au fond, vous avouez vos limites, parce que vous ne savez pas, et nous non plus, en vous lisant, pour qui votent les rockers. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de vote rocker ?
Alors, il y a des rockers engagés, évidemment, comme dans tout style de musique. Il y a des rockers qui ont un avis sur la société et qui n'hésitent pas à le donner. Il y a de nombreux exemples. Mais disons que le rock se marie peut-être moins bien fondamentalement à la politique que d'autres musiques. Simplement parce que le rock, c'est une musique de défoulement, d'insouciance, une musique de la jeunesse qui refuse de se prendre au sérieux, qui refuse de jouer le jeu des adultes. Et d'ailleurs, ça se caractérise d'une manière très, très évidente, c'est que le rock est une musique violente, une musique qui fait du bruit, c'est à ça qu'on la reconnaît. Et une musique qui fait du bruit, forcément, on écoute moins les paroles. Par exemple, c'est un peu l'opposé de la folk music ou de la country, qui se base sur une musique un peu plus économe et qui, du coup, laisse une plus grande place au texte.
D'ailleurs, ce que vous expliquez, par exemple, à propos de Dylan, c'est qu'il a commencé avec de la protest song, et puis il a viré au rock, et là, il n'a plus dit grand-chose. En tout cas, il n'y a plus eu de paroles à portée sociale.
Et il a encore dit beaucoup de choses, parce que ses textes restaient de grande qualité, mais en effet, c'est un peu symbolique. Le jour où il a commencé à électrifier ses instruments, à utiliser des guitares électriques, à amplifier le son, les Blowing in the Wind, les Masters of War, toutes ces protest songs, c'était sa période folk. Et quand il est devenu rocker, il a fait beaucoup moins de protest songs et il s'est plus intéressé à des sujets introspectifs, finalement, qui collent mieux au rock'n'roll, qui sont plus dans la tradition rock.
Il y a beaucoup de phrases drôles dans votre livre. Par exemple, à la question de savoir, ça c'est vous qui parlez et qui écrivez, à la question de savoir si le rock est un animal politique, disons qu'il est plus animal que politique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que le rock, en gros, comme je le dis à un autre moment, je m'autocite, excusez-moi. Le rock, c'est un adolescent de 16 ans, en gros, imaginez, même s'il peut être plus vieux. Mais dans l'idée, c'est un jeune qui veut sortir plus tard le soir, qui va emprunter la voiture de papa, qui veut draguer les filles. Et tout ça l'éloigne beaucoup de la politique. Donc c'est une musique pulsionnelle. C'est une musique qui passe par une décharge d'énergie, sexuelle évidemment, sensuelle. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il est plus animal que politique. Il s'intéresse moins aux sujets sérieux. Il est plus hédoniste que ça en fait.
Et c'est ce qui fait que sa révolte ne prend jamais de forme d'engagement collectif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'engager derrière un tel ou un tel.
Alors, il peut, certains rockers l'ont fait. Mais disons que le rock, contrairement par exemple au rap ou à la musique noire, le funk, la soul, où dès le début, ça ne veut pas dire que toutes les chansons parlent de ça, mais on sait que c'est une musique noire, et donc fondamentalement, elle a un discours. C'est-à-dire qu'à une époque où la discrimination avait encore lieu aux États-Unis, Faire de la funk, ça comportait un message en soi, ou faire du rap, on savait en tout cas au début que c'était des noirs du ghetto, donc il y avait un discours social, un discours racial. Le rock, son seul parti, c'est celui de la jeunesse. Donc ça n'implique pas de discours politique fondamentalement. Ce n'est pas parce qu'on fait du rock qu'on peut dire on est de gauche, on est de droite. Après, il y a des cas particuliers, il y a des rockers qui ont un avis personnel, mais le fait d'être rocker en soi n'implique pas un discours
préétabli. Et pourtant, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plutôt de gauche, parce que c'est ce que vous décrivez, vous écrivez dans votre livre. À l'origine, c'est une musique noire, c'est une musique... C'est pas dans les beaux quartiers que c'est né le rock, c'est plutôt chez les damnés de la terre.
Tout à fait, mais en même temps, c'est là l'ambiguïté du rock, c'est que c'est principalement la musique des noirs jouée par des blancs. On parle de rock'n'roll au moment où Elvis Presley apparaît, alors qu'il y a déjà des rockers noirs avant lui qui s'adressent encore exclusivement au public noir parce qu'il y a une situation de discrimination, de ségrégation. Il y a des radios noires, des salles de concert pour les noirs et la même chose pour les blancs. Et le rock'n'roll en fait apparaît quand Elvis se met à chanter de la musique jouée à l'origine par des noirs. Donc il y a cette dimension raciale, mais en même temps il n'y a pas le discours antiraciste qui soit forcément évident dans le rock. Il y a eu des rockers qui ont tenu un discours... peut-être pas raciste, mais en tout cas, après, il y a sans doute une majorité de rockers qui sont de gauche, parce que la rébellion colle mieux à la gauche, par définition, puisque la droite, c'est le conservatisme. Mais il y a des rockers de droite, c'est pas quelque chose d'incohérent.
Alors pourquoi, dans la mesure où le rocker n'est pas un animal politique, pourquoi est-ce que les hommes politiques aiment tellement s'entourer de rockers, ou même faire les rockers, Bill Clinton, c'est pour faire jeune?
C'est pour faire jeune, bah, peut-être que les rockers ne sont pas politiques, mais au moins ils ont du succès, ils sont adorés, ils ont un public, ils ont des fans acquis à leur cause, qui boivent leurs paroles. Et évidemment, quel homme politique ne rêverait pas d'avoir le même impact sur les foules, de voir un public se lever à ses pieds? Tout homme politique rêve de ça. Donc les hommes politiques vont essayer, et notamment à partir des années 90, c'est-à-dire Clinton, Blair, qui sont eux-mêmes des enfants du rock, vont essayer simplement de ne plus avoir de militants, mais d'avoir des groupies, de créer des ambiances de concert, d'afficher leurs référents jeunes, et pour parler aux jeunes, évidemment.
C'est ce que Jean-Paul Huchon a recherché en écrivant la préface de votre livre.
Ah bah je ne sais pas si c'est ce qu'il a cherché, je ne sais pas si c'est ce qu'il fait lui-même dans sa carrière politique, mais en tout cas, c'est un fan de rock, donc c'est pour ça qu'il a eu l'honneur, si je puis dire, de cette préface.
Vous qui êtes un expert, c'est un vrai connaisseur.
C'est un vrai connaisseur de rock. J'avais assisté à une petite soirée comme ça où plusieurs personnalités devaient donner leur liste de chansons favorites. Et il avait placé Song for Europe de Roxy Music, qui n'est pas le morceau le plus connu, et qui est un morceau que j'adore. Et je lui avais dit vraiment, je suis impressionné que vous sortiez ça. Donc oui, c'est un vrai connaisseur.
Merci Julien Demetz. Et je rappelle le titre de votre livre, Rock et politique, l'impossible cohabitation. C'est publié au Cahier du Rock.